Bienvenue dans Fashion Green Talk, le podcast des acteurs engagés de la filière mode, textile, luxe et sport. Entrepreneurs, stylistes, modélistes, chercheurs ou encore industriels, nous donnons la parole à ces passionnés qui mettent en œuvre la mode et le textile de demain. Dans ce podcast, nous mettons en lumière les initiatives positives qui existent déjà et les savoir-faire textiles extraordinaires de nos invités. Dans ce deuxième épisode de Fashion Green Talk, j'ai été ravie d'accueillir Christine Broways, ingénieure, sociologue et fondatrice du cabinet Tétroinel. Nous avons commencé par nous questionner sur le rôle que la sociologie peut jouer dans la transition écologique. Puis nous avons parlé du rapport qui existe aujourd'hui entre numérique et textile, ou encore de notre relation aux vêtements. Avant de découvrir cet échange passionnant, abonnez-vous pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes et soutenez le podcast en laissant une note sur votre plateforme d'écoute. Bonjour et bienvenue Christine sur le podcast de Fashion Green Talk. J'avais vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous parce que je pense que vous avez un parcours et une approche assez atypique et singulière. Vous êtes notamment sociologue. Je voulais commencer déjà par vous demander si c'était possible de vous présenter, de reprendre un petit peu les principales étapes de votre parcours et surtout est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans le textile ?
Alors, c'est une longue histoire. Au départ, j'ai fait des études de mathématiques et j'ai travaillé pendant des années dans l'informatique, en particulier l'informatique médicale, sur des projets passionnants. Je ne vais pas les énumérer, mais en un des moindres, comme le génome humain, par exemple, hein, les premières bases de données. Et au fil des années, ça va peut-être vous amuser, mais je me suis aperçu que c'était un métier qui était toujours en retrait, c'est-à-dire qu'on ne... C'est un métier où on ne pouvait pas palper, les gens ne pouvaient pas palper ce qu'on faisait. Et en même temps, je me suis souvenu de mes origines parce que je suis de Roubaix. Et j'ai eu envie de toucher à l'univers du textile. J'ai grandi entouré de toutes les cheminées d'usines à Roubaix. C'est impressionnant le nombre d'usines dans la ville. Et donc, j'ai suivi une formation. J'avais déjà une formation donc, en mathématiques, en sociologie. Et je me suis formée au textile avec l'idée de croiser ces deux domaines. Et donc, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Tétroinel, TIC, Textile Technologie Nouvelle. Et c'est un cabinet de consulting qui essaie de mettre en relation des compétences textiles, parfois très, très spécifiques, qui ne trouvent pas forcément des débouchés. Je pense par exemple à du tricotage 3D. Mmh. Et donc, on met en relation ce savoir-faire avec d'autres domaines technologiques de façon à ce que ça marche et qu'on trouve une application pour cette compétence, souvent avec une application qui va se marier justement avec une autre compétence technologique. Okay. On a vu comme ça de très beaux projets fleurir.
Et c'est super. Et justement, ce que je trouvais intéressant, c'est que donc de base, vous avez un métier d'ingénieur, vous avez aussi une double casquette dans la sociologie. Après toute votre expérience et les différents projets sur lesquels vous êtes impliqué, est-ce que vous pouvez justement me parler de votre méthode concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ? À quoi ressemblent vos journées ?
Alors déjà, je vais vous parler un petit peu du pourquoi la sociologie, parce qu'au départ, ce n'était pas du tout mon domaine. Quand j'ai commencé à développer des applications... Bon, relativement d'envergure, hein, parce qu'après le médical, j'ai travaillé aussi dans des grandes institutions. Donc, j'ai dirigé l'informatique au Conservatoire des Arts et Métiers, à Paris, par exemple. Ce qui me préoccupait, c'était de voir vraiment la finalité des outils qu'on allait mettre entre les mains des utilisateurs et puis comment leur mode de vie allait être changé, comment ils allaient l'intégrer, surtout l'intégrer. Donc, ça changeait les métiers, ça changeait les organisations. Donc, j'ai eu l'opportunité de reprendre des études en cours, en formation continue et en cours du soir. Et donc, dans le domaine de la sociologie du travail et des organisations. Et donc, ça, je l'ai mis en application. C'est-à-dire qu'on parlait du métier d'ingénieur. Pour moi, le métier d'ingénieur, c'est vrai, on le voit comme un métier souvent très rationnel, avec technique, du calcul, trouver une application qui aille bien avec un cahier des charges. Alors que, surtout aujourd'hui, pour moi, le métier d'ingénieur, c'est vraiment un métier qui est aussi un métier de l'humain, c'est-à-dire se poser la question du sens de ce qu'on va mettre en œuvre, de ce qu'on va développer et mettre en œuvre, et puis aussi par rapport à un cahier des charges, peut-être être un petit peu critique, parce que ça enferme un cahier des charges. Parfois, on peut avoir des idées au départ et ouvrir ce cahier des charges, et on va trouver comme ça des petits éclairages, des modifications qui vont complètement changer l'esprit du projet. Donc voilà, ça c'est la sociologie qui m'a apporté aussi ce regard, parce que cette préoccupation justement de la relation des individus entre eux, de la relation des individus à la société. Et de fait, moi j'ai été donc très longtemps dans un métier du numérique. Et donc, on a contribué à changer complètement cette société. Moi, j'ai tiré des réseaux informatiques. Enfin, donc, on a vraiment, on le voit aujourd'hui, on avait une responsabilité sur ce qui allait se passer. Voilà.
C'est ouais, c'est en fait c'est hyper intéressant parce que ça fait le lien avec mon autre question. C'est souvent quand on parle notamment de mode durable, on parle de produits, de matières. Souvent les marques voilà communiquent de plus en plus en tout cas sur leurs pratiques, etc. Et c'est quelque chose qui est assez concret finalement, où c'est un peu plus simple de voir l'impact positif ou négatif. Et du coup, ça mène à ma question. Quel rôle joue la sociologie ou peut jouer justement dans cette transition écologique? Parce qu'on parle aussi de changer nos manières de consommer moins, mais mieux. Et du coup, comment ce rôle de sociologue peut en réalité avoir un impact sur cette transition?
Alors moi, je le verrais de différentes manières. Parce que c'est vrai que c'est une question très complexe, je trouve, parce que le vêtement, on touche vraiment, enfin, c'est pas nouveau, là, j'invente rien en disant ça, on touche à l'intime, on est vraiment, c'est une enveloppe qui est par-dessus notre enveloppe qui nous est propre, c'est-à-dire la peau. Donc c'est une enveloppe, en fin de compte, qui est à l'interface entre nous et puis les autres. Et c'est une enveloppe qui nous permet d'exprimer une sensibilité, une identité, enfin beaucoup de choses. Et là, avec cette contrainte aujourd'hui, de s'apercevoir que le gisement matière, il n'est pas inépuisable, et qu'on a une responsabilité lorsqu'on touche à ce stock de matière pour faire un vêtement, par exemple, on a une responsabilité par rapport aux générations futures, et donc se préoccuper de faire effectivement un vêtement qui va être durable, recyclable. Donc déjà, a priori, un vêtement qui va durer. Donc, pour répondre à votre question, on peut faire intervenir la sociologie de l'imaginaire, c'est-à-dire la sociologie des imaginaires, je dirais, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Le vêtement, par exemple, les habits, je dirais de façon générale, les objets que l'on achète, ils servent pour beaucoup de gens à exprimer leur identité, leur classe sociale aussi, hein, parce que bon, selon les moyens que l'on a ou que l'on veut montrer, afficher, on va pas s'habiller de la même façon. Donc, ça change tout aujourd'hui de se dire que les matières, en fait, quand on les emprunte simplement ces matières, on les emprunte, elles nous appartiennent pas, parce que quand le vêtement va être usé ou qu'on va s'en lasser, on va récupérer cette matière pour un autre usage. C'est pour ça que je parle de la sociologie des imaginaires, parce qu'en fin de compte, on a maintenant un regard sur la matière qui se transforme complètement. D'ailleurs, on voit que les gens se préoccupent tout de suite de la composition, de la séparation de ces matières. Déjà, dans le quotidien, on le fait avec toutes les ordures ménagères. Donc, a fortiori, on le fait avec le vêtement. Alors là où ça bute un petit peu, je suis un peu bavarde, mais je continue comme ça, c'est que je pense qu'il y a à la fois ce rôle du vêtement dans la société, mais il y a aussi une dynamique qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, qui est la dynamique du numérique. Donc je vais parler de la sociologie du numérique, parce que en fin de compte, la façon dont on appréhende un matériau, une matière, un vêtement, enfin, moi, je le ressens comme ça, c'est quelque chose qui change considérablement. C'est-à-dire qu'on n'est plus d'un côté une matière inerte qu'on va constituer, un vêtement qu'on va construire, etc. Mais en fin de compte, on est dans quelque chose qui est vivant, relationnel. On est dans quelle expérience va nous permettre ce vêtement? Comment on va se sentir? Et je pense que petit à petit, j'ai l'impression qu'on va inverser les choses, c'est-à-dire qu'on va partir de l'expérience de celui qui va porter le vêtement, qui en plus aura des univers, des mondes numériques, des métavers, de l'intelligence artificielle, enfin des outils, un tas d'outils qui vont venir compléter cette expérience, en termes de sensations aussi. Parce que ce ne sera pas simplement le porter, mais c'est aussi s'imaginer le porter à travers ces outils. Et donc, ça va aussi bouleverser la relation qu'on a aux vêtements et la façon dont la mode va être va se construire dans les années à venir. Donc tout ça fait que, j'avoue que je trouve que c'est très difficile de répondre à la question que vous posez aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut pas, faire fi du fait que le vêtement, il fait rêver quand même. Donc si un jour on nous disait, vous allez être habillé pareil du début jusqu'à la fin de votre vie, je trouve que ce serait un peu tristoun, quoi. C'est pas...
Ah bah oui, c'est
oui,
sûr.
L'uniforme pour tout le monde, même ouais. Si c'est bien pour expérimenter ça à l'école, je vois pas ça, je trouve que... Et puis, en plus, ça dépend de l'état d'esprit que l'on a. On ne s'habille pas pareil d'une semaine sur l'autre. Voilà. Donc, c'est très complexe.
Oui, tout à fait.
Comme question.
Bah, c'est drôle parce que ça fait un petit peu référence à l'épisode, justement, qu'on a sorti précédemment avec Abali. Avec lui, on a parlé de couture, de faire soi-même. Et justement, ce qu'il racontait, c'est que le fait de commencer à faire ses vêtements, à choisir ses matières, la couleur, le design, bah, ça change complètement le rapport qu'on a avec ses vêtements. Et pour le coup, quand on le porte, mais même au moment d'éventuellement s'en séparer, ben, c'est pas du tout le même rapport entre un vêtement qu'on a fait et un vêtement qu'on a acheté. Forcément, qu'on y a passé des heures, on va peut-être réfléchir à deux fois avant de le jeter. Et du coup, je pense que déjà ça peut être dans le concret une façon, une première façon de réinventer un petit peu la relation aux vêtements, les imaginaires, en étant plus dans le faire, dans la matière, plutôt que une attitude un peu passive de voilà, je consomme, je jette, finalement je suis pas très acteur de ma consommation, quoi.
Non, c'est tout à fait juste. Et puis, c'est vrai que là, pour le coup, Fashion Green, avec le plateau fertile, est complètement dans cette dynamique. C'est vrai que je pense que de plus en plus, on va voir les personnes choisir leurs vêtements justement avec la main du tissu, en imaginant le contact avec le tissu, avec la souplesse, le porté, la façon dont ça va vivre autour du corps. Enfin, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, le vêtement. C'est beaucoup plus que quelque chose d'utilitaire. C'est quelque chose qui vous accompagne, en fin de compte. Et puis, parfois, il s'y agrège des souvenirs aussi, après. Mm. Quand on l'a porté, il y a des souvenirs, il y a eu des rencontres. Et donc, il prend une valeur qu'il n'avait pas au départ. Et on est tenté, justement, de le faire durer, de le réparer, ou éventuellement de le customiser, de rajouter des choses pour lui donner un nouveau style. Enfin, c'est vrai que c'est moi, j'ai quelque chose qui me plaît bien, cette approche du vêtement.
Et si on revient un peu au numérique, parce que du coup, il y a à la fois cette approche qui se développe justement beaucoup plus proche avec le vêtement. On revient à la matière au toucher. Et en même temps, il y a ce numérique qui prend une place de plus en plus présente dans notre société. J'ai l'impression qu'il y a ces deux mondes un petit peu qui se retrouvent, qui s'entremêlent un petit peu. Vous, comment vous voyez ces deux éléments-là évoluer, et comment l'un influence l'autre?
Justement, moi, c'est quelque chose, effectivement, qui m'intéresse beaucoup comme réflexion. D'autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai travaillé dans le numérique et je suis venue après à la matière. Et à force d'avoir réfléchi, c'est vrai que pour moi, c'est deux mondes qu'il ne faut pas opposer, mais au contraire, qui gagnent à s'agréger. Je pense que là, on est vraiment au balbutiement d'un nouveau monde où on aura, je disais tout à l'heure, une autre relation à la matière. Je pense qu'on va sortir d'un modèle basique de sensation dans un monde cartésien, on va dire, dans un monde où on sait ce qu'il y a devant nous, derrière nous, etc., au-dessus de nous. Enfin, je parle par des repères dans l'espace. Mmh. En fin de compte, on va aller vers un monde où on va mélanger, comme j'avais commencé à l'évoquer tout à l'heure, le ressenti du réel, les sensations, c'est chaud, c'est froid, c'est doux, et le ressenti qu'on a, qu'on peut avoir avec donc des expériences qui viennent se compléter avec des outils, des logiciels, un monde virtuel qui est construit. Et je pense que justement, ça va permettre, enfin moi c'est un thème qui me fait un peu rêver depuis des années, pourquoi pas d'imaginer que le vêtement, dans sa corporalité, parce qu'on le porte en entier, permettent d'aller plus loin dans l'immersion dans le numérique. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer que les capteurs que l'on a dans le vêtement nous permettent de connaître des sensations que, jusqu'à présent, on n'avait pas ressenties. Disons, des sensations, je dirais, conjointes. Une espèce de fusion de sensations qui viendraient de mondes différents, tout en étant en relation les uns avec les autres, etc. Donc c'est un peu confus, mais c'est vrai que c'est un domaine Bon, je ne vais pas comment dire, en parler plus avant, mais c'est vrai que j'avais sorti un livre en 2019 qui s'appelait La matérialité à l'ère digitale, mais le sous-titre était L'humain connecté à la matière. Là, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à l'évolution de la mode, donc une mode qui serait beaucoup plus extrême, si on peut dire, ça m'amuse de voir on est complètement parti dans l'humain connecté à la matière, connecté de façon virtuelle, mais connecté à la matière.
C'est drôle quand même, ouais, parce que la première pensée qui me vient quand je pense au numérique, c'est justement qu'on s'éloigne de l'humain, mais en fait,
Mais
les deux
c'est
peuvent
a
être.
priori, oui. Quand on est dans une première phase, je dirais, d'analyse de ce qui se passe, on se dit, mais tout ça s'oppose, voilà, on perd nos repères. Après, tout dépend je dirais, des nouveaux repères et des nouveaux médias d'analyse que l'on construit de façon à rester humain dans ce processus-là. C'est surtout de ne pas perdre la main. Mais vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que c'est vrai que ça ne paraît pas évident au départ. Au départ, on se dit l'humain s'oppose avec la technique, mais en fait, quand c'est pas l'humain qui s'oppose avec la technique, c'est l'usage qu'on en fait, l'usage de la technique. Si l'usage de la technique est maîtrisé, réfléchi, on peut en faire quelque chose de bien.
Et comment vous faites justement vos recherches vous parliez d'un livre que vous avez écrit tout à l'heure. Quand vous avez voilà, un sujet en tête, est-ce que c'est des interviews, des rencontres, des
Alors,
études,
tout à,
c'est...
alors c'est, effectivement, il y a des interviews pour la matérialité à la digitale. Ce que j'avais voulu, c'est que ce soit très ancré dans l'expérience. Et donc, j'avais prévu, et c'est donc ça a été inclus, donc il y a une pause au milieu du livre qui consiste en quatre interviews de gens qui travaillent la matière. Donc, il y a une architecte, il y a donc un potier qui travaille d'ailleurs en Australie, je crois, si j'ai bonne mémoire. Il y a donc une designer textile. Et puis, il y a quelqu'un qui travaille dans les semi-conducteurs. Ça paraît curieux,
Oui.
mais donc on a des gens qui sont plus artistes, des gens qui sont plus, on va dire, scientifiques. Et quand on regarde les interviews, la poésie qui est exprimée par celui qui travaille dans les semi-conducteurs est, je dirais, presque plus émouvante que celle qui est exprimée par celle qui travaille dans... Donc ce sont des mondes qui, à mon avis, surtout à l'ère numérique, communiquent de plus en plus entre eux. Et moi, je me suis aperçu, lorsque j'ai écrit ce livre, parce que j'avais organisé après un séminaire pour faire se rencontrer des gens de disciplines différentes, je me suis aperçu qu'en fait, quand il y avait une immense envie de la part de toutes ces personnes, que ce soit des scientifiques, que ce soit des artistes, que ce soit donc des architectes, etc., une envie de se cotiller justement sur l'humain et sur justement d'essayer de. Ces gens-là avaient envie de travailler davantage les sciences humaines pour comprendre justement en quoi leur métier changeait, comment ne pas perdre la main et au contraire anticiper pour que leur métier soit encore mieux, quoi, avec ces nouveaux outils. Et c'est pas si évident.
Non, ça oui,
Voilà.
je veux bien le
Donc
croire.
voilà, donc oui, bien sûr, des interviews. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà, il faut pas être complètement partir dans des grandes choses éthérées. Il faut que ce soit quelque chose qui soit ancré dans la réalité, surtout si on veut parler de la matérialité. Et donc, ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Et le tout dernier livre que j'ai fait, qui est plus sur les imaginaires, parce qu'on a parlé tout à l'heure des imaginaires, en fin de compte, la réflexion, c'est une continuité de la matérialité. La réflexion qui m'est venue à force de réfléchir, d'essayer de me questionner sur l'évolution de l'humain, justement, dans tout ce contexte, c'est de dire, en fin de compte, ce qui change et ce qui est peut-être en danger dans notre monde, c'est la construction de nos imaginaires. C'est-à-dire cette faculté d'autonomie de chaque personne pour être capable d'avoir un monde intérieur, un discours propre par rapport à celui des autres, de façon à porter sa pierre à l'édifice, si on peut dire, et donc faire que se confrontent les pierres des uns et des autres, si je puis dire, et qu'en fin de compte, on arrive à évoluer vers de nouveaux symboles qui donnent après une cohésion au social. Et donc, tout ça n'est possible que si on garde cet esprit critique, c'est-à-dire c'est l'esprit critique qui permet d'avancer. Si tout est nivelé, si tout le monde est sur la même longueur d'onde, il est évident que, ma foi, il va se passer quelque chose de fort et de créatif. Donc, c'est cette espèce de prise de conscience qui m'a fait donner envie de réfléchir donc Et donc j'ai fait un livre qui utilise complètement la métaphore textile. C'est-à-dire le tissage, je parle de tissage, de métissage, de treillis, de la pensée, la façon dont les choses se... Et je prends même l'image de toute la chaîne textile avec le filage, enfin même la préparation des fibres, le filage, le tissage, après l'ennoblissement, etc., pour essayer de reproduire justement ce qui se passe au départ entre, je dirais, les petites bribes qu'apportent les uns et les autres, les fils, comment on fait pour qu'ils se mélangent entre eux. Il faut les texturer, vous voyez. Enfin, j'ai aimé cette image-là parce qu'en fait, c'est tout à fait ça ce qui se passe pour construire des imaginaires.
Ça donne vraiment envie de découvrir justement votre ouvrage.
Oui, ça me vient comme ça parce que c'est vrai que ça, j'ai toujours un peu aimé remettre un petit peu en question si on peut dire, les certitudes que je pouvais avoir. Je sais pas si on peut parler de certitudes. Et là. Mais dans un esprit constructif, pour faire ce livre, j'ai beaucoup travaillé avec un monsieur qui s'appelle Jean Salentin et qui a consacré toute sa vie à l'intelligence artificielle. Il est chercheur à Montpellier. Et en fin de compte, c'est amusant parce qu'il a trouvé que cette réflexion sur le textile était très complémentaire à ce qui lui manquait, lui, avec ses outils mathématiques.
C'est fou, ça.
Parce qu'il y avait, en fin de compte, quand on modélise des débats publics, par exemple, qu'on modélise des discussions, qu'on essaie d'utiliser des outils de l'intelligence artificielle, ce qu'on n'arrive pas à prendre en compte, c'est l'individualité de chacun, c'est-à-dire les imaginaires de chacun. Ce qui fait que, en fin de compte, quand vous prononcez une phrase ou un mot, pour vous, c'est évident, ça a ce sens-là. Mais pour l'autre, qui n'a pas du tout la même histoire que vous, qui a grandi dans tel endroit, qui a été frappé par telle histoire, etc., quand il va entendre le propos, ça ne va pas du tout avoir le même...
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire.
Oui, ce que je veux dire. On a tous... Oui, et donc, en fin de compte, dans un débat, c'est quelque chose qui est très difficile à modéliser. Très difficile, parce qu'en fin de compte, l'intelligence artificielle, on se base donc sur l'enrichissement de l'expérience. Donc on part du principe qu'il y a eu quelque chose avant. Or, l'imaginaire, c'est quelque chose qui d'un seul coup va très vite, qui fait le lien avec, vous voyez, avec un souvenir, un éclairage, une image. Et hop, ça vous fait des raccourcis d'inspiration, de création qui sont humains.
Qui sont
humains, voilà. Ça, c'est vraiment... je trouve que c'est vraiment la beauté de l'humain.
C'est peut-être lié à l'émotionnel aussi.
Oui, voilà, tout à fait, l'émotionnel.
Oui. Et vous aviez, la dernière fois, vous m'aviez parlé d'une recherche que vous aviez faite il y a à peu près une dizaine d'années sur le textile de demain, et notamment, je crois que ça concernait 2030, si je ne dis pas de bêtises. 2030.
C'est ça, c'était assez ambitieux. Alors, c'est une étude qui avait été commandée par le CETI à l'Institut français de la mode. À cette époque-là, j'étais consultant et j'étais donc sous-traitant sur l'Institut français de la mode. Donc, j'avais travaillé dessus avec Evelyne Chabalier. Et donc, j'avais déjà tout un gros travail, disons, de chiffres, d'études économiques par rapport à tout, entre guillemets, tous les nouveaux textiles. Et là, il s'agissait de préparer quelque chose qui valorise et qui montre qu'il y avait une dynamique très positive par rapport à l'inauguration du Centre européen des textiles innovants, qui était d'ailleurs à Roubaix, mais qui est maintenant à Tourcoing.
Oui.
Je plaisante. Et donc, c'est amusant parce que quand j'y repense, en gros, il y avait trois dynamiques dans cette étude. Il y avait une dynamique d'évolution sociétale. Alors, on prévoyait des changements dans les modes de transport, des changements dans les modes d'habitat, avec les outils numériques, quand le bureau était nomade. Enfin, vous voyez, on prévoyait beaucoup de changements au niveau de la société. On prévoyait donc une croissance sans limite du domaine des fibres, des fibres, bien entendu, essentiellement de la pétrochimie. Et on avait déjà vu qu'il y avait cette problématique du développement durable. Donc, c'était une étude, en fin de compte, d'anticipation par rapport aux usages qu'on pouvait imaginer en 2030. Donc, une étude, je dirais, plus sociologique, avec des chiffres à l'appui par rapport à ce que représentait, à ce moment-là, le textile en termes de nombre de fibres, de volume de fibres, de composites, de non-tissés, enfin bon. C'était aussi dans la dynamique de la création de l'Observatoire des textiles techniques que j'avais mis en place avec l'IFM. à la demande du ministère de l'Industrie, et donc qui était un observatoire qui est plus qu'un observatoire. C'était aussi une cartographie des savoir-faire textiles, justement de façon à mettre en relation les savoir-faire avec, avec la demande, avec, disons, d'éventuels projets qui pouvaient... enfin, une application qui jusqu'à présent a été dans le médical, qui tout d'un coup pouvait se retrouver dans le vêtement ou dans le sport ou dans autre chose. Alors aujourd'hui, c'est pourtant pas si loin, ça c'était ce dont je vous parle, c'est 2012, on est donc 12 ans après.
Ouais.
Mais alors quand je regarde ça, j'ai l'impression que c'est il y a des années-lumière. Pour moi, si on parlait de textile performant, on parlait de le textile est partout, le textile est dans tous les domaines de l'industrie, tout le monde va en prendre conscience. Voilà. Or aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de crises majeures. Mais il y a eu, en particulier, et heureusement, une prise de conscience par rapport aux ressources. Et puis, il y a eu aussi le Covid, qui a aussi freiné beaucoup la dynamique. Donc aujourd'hui, si je regarde ça, moi, ce que j'en retiendrai, c'est quand même de dire l'idée qu'il y avait au départ de décloisonner complètement le textile, c'est une idée qui existe toujours. D'ailleurs, à l'époque, et puis je continue à défendre ce terme, moi, je trouve que le mot textile enferme, en fin de compte, parce que le textile, bon, c'est toute une chaîne de savoir-faire qui permet d'avoir, au final, un textile qui va être confortable au porter, qui va permettre le mouvement, qui va être souple. Mais en fin de compte, tous ces procédés sont relativement anciens, avec des fédérations derrière qui sont assez anciennes. Et on avait l'idée, justement, quand on avait lancé cette étude, de décloisonner complètement ça. Donc, ce qui peut décloisonner aujourd'hui, c'est vraiment le recyclage. C'est-à-dire, à partir du moment où on met à plat, où, je dirais, où on récupère donc, des gisements qui peuvent toucher d'autres domaines, d'autres filières que le textile, on va peut-être enfin arriver à faire en sorte que le textile ne soit plus cloisonné uniquement au domaine du vêtement. Et vice-versa, parce que peut-être qu'on imaginera un jour trouver des matières qui aillent bien avec l'impression 3D et qui permettent de faire des textiles suffisamment confortables. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'il faut des matières plutôt plastiques. Et bon, je ne sais, sais pas si vous avez vu les vêtements faits en 3D, c'est quand même un petit peu pas très agréable au porter.
Ouais. Mais ça fait bien le lien, justement. Je vous posais cette question parce que j'étais curieuse de savoir 10 ans après ce qu'il en était. Parce que c'est vrai que les choses aujourd'hui évoluent tellement vite et tellement... ça fait le lien aussi avec un groupe de travail à Fashion Grenoble sur 2050. Et je me dis, ouais, comment c'est possible d'imaginer la mode voilà, dans plus de 20 ans vous, comment vous le voyez, justement? Est-ce qu'il y a quelques éléments où pour vous, c'est évident qu'on y sera? Ou est-ce que ça ne doit pas être évident quand même de faire toutes ces études, sachant que, comme vous l'avez dit, les choses changent, évoluent
Les choses évoluent très vite. Parce que franchement, si on m'avait dit en 2012... comme on en serait en 2024, je n'aurais pas cru. C'est pour ça que je reste prudent. Dans le domaine de la mode, n'est pas, je ne suis pas spécialiste du tout. Donc, je vais pas trop m'avancer sur ce domaine-là. Moi, j'ai touché un peu à tous les matériaux textiles au sens large, c'est-à-dire les fibres, mais aussi les composites qui entrent dans la composition. Donc, des pièces, ça peut être des pièces aussi bien pour l'automobile, pour l'aviation, pour le sport. Donc, des domaines qui, a priori, sont assez techniques et qui ont permis... c'est vrai qu'on ne va peut-être pas enterrer trop vite les fibres synthétiques, parce qu'en fait, cet essor des fibres synthétiques, ça a permis un tas de nouvelles applications et donc des débouchés qu'on n'aurait jamais imaginés. Qu'aujourd'hui, la mode en 2050, ça me paraît très, très loin.
Oui.
Je ne sais même pas ce que le mot « mode » signifiera en 2050. C'est très lié à la société, c'est très lié aux sociétés, c'est très lié au mode de vie, c'est très lié à, je veux dire, au regard qu'on porte sur... c'est une dynamique, la mode, c'est une dynamique... Moi, je pense que les outils, en particulier les outils de l'intelligence artificielle, vont faire que... On le voit déjà, il y a d'ailleurs de gros problèmes de conflits de propriété industrielle. C'est que on va entraîner les intelligences artificielles Sur des logiciels de design, sur des logiciels de conception de vêtements, des logiciels d'élaboration de tissus,
Oui.
de structuration de fibres, on le voit déjà. C'est-à-dire que on voit, moi je vois les Japonais, maintenant, ont des techniques pour, en fonction d'un usage donné, construire le tissu qui va avoir tel comportement, qui va être plus souple à tel endroit, moins souple à tel autre, et qui va être vraiment fait un peu comme la toile d'araignée, parce que la toile d'araignée, elle est vraiment, elle n'a pas la même composition d'un bout à l'autre, hein, elle est plus
Ouais.
souple, plus par endroit. Donc, je comparais ça un petit peu, si vous voulez, parce que comme je viens du numérique, à ce qui se passait quand on était à la fin des années 90. Quand je me suis trouvée responsable informatique sur le campus de Marne-la-Vallée, donc c'était le Polytechnicum de Marne-la-Vallée, eh bien, on était là un peu foufou, on se disait que les réseaux allaient jouer un rôle considérable, donc on essayait d'obtenir des financements de la région Île-de-France, et on allait tirer de la fibre optique sur les campus, je veux dire, et les gens nous disaient, ils sont complètement fous, on n'a pas besoin de ces débits-là, c'est complètement ridicule.
Ouais.
Mais 10 ans après, c'était saturé, quoi. Donc, et je sais que les collègues nous remercient d'avoir anticipé à ce moment-là, quoi. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, il faut être un peu fou, quoi. Il faut être un peu fou. Et donc, je vais laisser le groupe mode 2050
oui.
Répondre à cette question, parce que moi, j'avoue que j'ai des bribes d'idées, mais je sais pas de quoi ce sera fait.
Ça marche, merci beaucoup. Et peut-être on peut finir par une petite question. Est-ce que vous avez des projets futurs, des ouvrages en cours ou des choses que vous avez envie de partager sur lesquelles vous travaillez, des sujets qui vous intéressent en ce moment
Alors, un sujet qui m'intéresse, c'est la prolongation de ce que je viens de faire avec le treillis, là, le treillis du métavers. Comme je viens de l'univers mathématique, c'est d'approfondir cette question en repartant de la théorie des graphes. Alors, je ne vais pas me lancer dans des considérations mathématiques, mais c'était en fin de compte mon sujet de mémoire d'ingénieur. Hein, la théorie des graphes, c'est un domaine que j'ai bien exploré, qui intervient beaucoup en sociologie d'ailleurs, hein, surtout aujourd'hui à l'époque des réseaux. Et donc, j'aimerais bien approfondir cette question justement en lien avec les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle pour essayer d'avoir des choses un petit peu plus tangibles par rapport à ce que j'ai fait dans mon dernier essai, qui était un petit peu c'est des idées lancées à droite et gauche, mais c'est pas ça demande après d'étayer derrière. Donc il y a ça. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est dans la méthode de travail, c'est de dire que le rôle que je vois aujourd'hui au textile, dans les années à venir, pour moi, le textile, c'est vraiment une matière... Une matière ouverte par excellence, c'est-à-dire c'est une matière qui se fonctionnalise facilement, qui s'adapte infiniment à des usages. Oui. Et donc, en fin de compte, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à devenir, entre guillemets, des passeurs de matière. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des passeurs de matière entre les gens, vous voyez, pour leur donner envie
oui.
de...
Vous voyez. C'est presque poétique comme
oui,
image.
Oui, mais aussi bien au sens poétique qu'au
oui.
sens concret du terme, vous voyez ce que je veux dire.
C'est
une réflexion que j'ai en cours aussi, ça, cette approche.
Super.
Voilà, je termine dessus.
Bah,
je
oui.
vous remercie beaucoup en tous les cas. C'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures, mais c'est passionnant, c'est un sujet...
Exactement, ouais, il y a plein de sujets.
On peut explorer par mille chemins.
Exactement.
Merci
beaucoup hein, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi.
Et à une prochaine fois alors.
À une prochaine fois. Si vous aussi vous avez envie d'agir, rejoignez-nous tous les mois pour un témoignage inspirant. Fashion Green Talk, c'est le podcast porté par Fashion Green Hub, l'association d'entreprises qui s'engage pour diminuer fortement l'impact de la filière mode et textile.